travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Daumier, Honoré Daumier, lui comme tant d'autres, on a attendu qu'il fût mort pour admirer son génie après avoir seulement accepté les bons talents.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Parmi la suite des émissions que nous voulons destiner ici à mettre en perspective historique les événements tragiques de janvier dernier, il s'imposait de parler de la caricature à travers les âges. La caricature, un art sérieux, si sérieux qu'on peut en mourir. Par cette formule, Philippe Dagen, professeur d'histoire de l'art contemporain à la Sorbonne, terminait récemment un bel article consacré à ce sujet dans Le Monde, dont il est un collaborateur régulier. Je l'ai invité à venir à mon micro ce matin pour considérer avec lui ce que la longue durée peut enseigner quant aux relations compliquées que la caricature, en recherche perpétuelle d'émancipation, en querelle permanente avec toutes les censures, a pu entretenir avec les divers pouvoirs successifs, pouvoirs religieux, économiques ou politiques. Des pouvoirs qui se rejoignent souvent pour tenter de se défendre de multiples façons contre les multiples nazardes que peuvent leur porter les maîtres du dessin, s'armant contre eux du talent de leur burin, de leur fusain, de leur pinceau ou de leur crayon. D'âge en âge, l'évolution des techniques de diffusion comme des modes de gouvernement a grandement influencé, bien entendu, la place et le rôle qui ont été ceux de la caricature. Mais en a-t-elle changé la nature profonde ? La chose est moins sûre. Et comme c'est ici notre vocation, nous allons nous mettre en quête, par-delà les mutations évidentes, de telle ou telle pérennité profonde conduisant jusqu'au plus intense de notre actualité. Et pour commencer, écoutons Cabu en
1990. Bon, moi je travaille en écoutant la radio et beaucoup en écoutant les infos sur France Culture, c'est vrai. C'est après avoir entendu une info, moi je la retranscris graphiquement, quoi. Mais je la prolonge quelquefois.
Pas tout de suite.
Si, quelquefois c'est instantané. Toc, j'entends un truc et je le prolonge. Je le déforme, je le triture. Ici, en Canard, ils veulent que les dessins aient une analyse juste quand même. Vous voyez, que l'analyse politique soit juste. On ne peut pas trop délirer comme on faisait à Charlie Hebdo. Il faut qu'on soit vraisemblable, quoi. Que l'information qui est sous le dessin soit juste. Donc c'est une discipline à laquelle je me suis plié parce que moi j'étais pas habitué à ça et ça y est, il est fait. Bon, alors ça c'est une bande que j'ai faite sur le congrès de Rennes, congrès du PS, parce que j'ai imaginé que ça pouvait se passer comme pour l'élection d'un pape. Vous savez qu'autrefois, on passait sous le fauteuil du pape pour tâter s'il avait des testicules, parce qu'on ne pouvait pas élire un castrat. C'est vrai, ça. Donc j'ai représenté la tribune, bon, j'ai caché le type qui est le testeur. Et c'est peut-être pour ça qu'aucun candidat n'est sorti, aucun secrétaire général n'est sorti de Rennes. Et puis j'ai pensé que Fabius, il me faisait penser au personnage qu'on voit qui fait de la pub pour le chat sans phosphate. Parce qu'il a l'air incolore comme lui. Sans odeur, sans saveur, sans conviction. Le fafa sans fafate.
Philippe Dagen, bonjour.
Bonjour.
C'était donc Cabu qui était interrogé ici par Catherine Youinou dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture le 27 septembre 1990. Il rend lui-même hommage à France Culture, ce qui bien sûr nous fait plaisir. Il écoute la radio tout en travaillant. J'ai souhaité lui rendre hommage, ça ne vous étonnera pas. Et en même temps, il nous conduit assez directement au cœur du sujet que nous allons avoir à traiter.
Vous voulez dire par exemple l'allusion aux élections pontificales?
Par exemple, nous sommes ici, nous sommes parfois un peu lestes, nous ne sommes jamais salaces.
C'est tout à votre honneur. Mais plus sérieusement, il est vrai que la caricature a cette capacité de, ce qui me semble-t-il l'inscrit d'autant mieux d'ailleurs dans votre réflexion, de faire en somme se rencontrer les époques. Et donc, en un sens, que Cabu fasse référence à cette vieille iconographie d'élection pontificale pour la réactualiser dans l'époque la plus contemporaine, si j'ose dire, ce n'est que l'une des nombreuses manières que la caricature a de fonctionner entre le passé et le présent.
Il n'est pas d'ailleurs le premier à ironiser sur la papauté. Dans votre article, vous évoquez, Philippe Dagen, les dessins de Cranach l'Ancien au début du XVIe siècle, qui sont très impressionnants. On voit le pape monter sur une truie avec un étron à la main.
Il faut avouer que la religion romaine a été l'une des cibles les plus régulières. Mais là, peut-on parler véritablement de caricature dans le cas de Cranach? C'est un pamphlet dessiné, diffusé à des fins, si l'on peut dire, de propagande et de réforme, s'en prenant à une institution plus qu'à un homme, véritablement. La caricature procède là par un moyen allégorique, même si c'est une allégorie extrêmement chargée, qu'on peut même considérer pour le coup comme très salace. Il s'inscrit au tout début, non pas du dessin anticlérical qui ne viendra que plus tard, puisqu'au fond Cranach lui-même, ce à quoi il appelle, c'est à une réforme et non pas à un abandon de la religion. C'est très emblématique aussi d'un moment, j'imagine qu'on en parlera, où la caricature est rendue possible par le fait qu'elle peut être portée à la connaissance du plus grand nombre. Je veux dire par là que Cranach grave que ces feuilles sont imprimées et que précisément la caricature chez Cranach est un peu ce que le texte imprimé, l'invention de l'imprimerie, sont à Gutenberg. La possibilité de s'adresser au plus grand nombre, au moindre coût.
Cela nous conduit d'entrée de jeu, et je ne m'en plains pas, à une réflexion sur la définition même de la caricature. Est-ce que ce dessin de Cranach est une caricature ou non? On doit peut-être rappeler que c'est après tout une des seules langues qui soit universelle, et parce qu'elle se passe de mots, comme la musique. Peut-être rappeler aussi quelle est l'origine du terme portrait charge, caricature. Le mot vient de l'Italie, caricatura.
Et vient aussi d'un sous-entendu militaire. Une caricature, on charge. C'est d'ailleurs, le mot, il en est resté quelque chose en français du portrait charge, mais le mot charge peut s'entendre de nombreuses manières.
Caricare.
On charge une arme à feu, et ensuite on tire. On charge sur l'ennemi, et même dans la langue française, charger quelqu'un, cela s'emploie au sens de l'accabler. Donc on voit bien là, à travers ces trois interprétations possibles du mot, que la caricature, par définition, c'est une offensive.
Le mot de caricature n'apparaît, je l'observe, que dans la quatrième édition du dictionnaire de l'Académie en 1762, est en effet précédé par l'expression portrait charge.
Ce qui ne signifie pas que, loin de là, que le phénomène est attendu le XVIIIe siècle pour opérer. Je pense que si l'on faisait une histoire extensive du dessin ou de la représentation satirique, on devrait remonter sans doute très en amont, et même sans doute bien avant l'ère chrétienne.
Oui, vous évoquez cet homo sapiens, vous rêvez à cet homo sapiens, oui, d'humeur railleuse, qui se serait amusé à ridiculiser l'un ou l'autre de ses semblables avec une gravure qui tracerait sur une plaquette calcaire ou sur un os.
C'est une question que les préhistoriens se sont sérieusement posées, de savoir si certaines représentations humaines qui nous apparaissent comme grotesques l'étaient délibérément ou, si j'ose dire, parce que la justesse d'un trait aurait manqué. Sur la préhistoire, je crains que nous n'ayons jamais d'éclaircissement définitif.
Ça n'empêche pas de rêver, mais...
Certes non.
Portons-nous aussitôt donc à l'Antiquité, peut-être au Moyen-Âge.
Oui, pensons à l'Antiquité, pensons à nombre de peintures sur les flancs des vases grecs, particulièrement d'ailleurs ceux qui étaient supposés contenir du vin, et dans lesquelles on observe toutes sortes de scènes. Oui, alors les unes érotiques, les auditeurs ne vous voient pas. Les unes érotiques...
je n'ai fait aucun geste érotique, je le dis à mes auditeurs.
Non. Enfin, vous évoquez tout de même quelque chose.
J'essayais d'évoquer l'ivresse, apparemment, vous avez confondu.
C'est une autre ivresse. Et en effet, cela avait été des dessins qui avaient un caractère à la fois satirique, un caractère moral, car ils appelaient à la volupté, mais également à demeurer relativement tempérant et à ne pas tomber dans les excès de la boisson ou les excès de la débauche.
C'est surtout après la mort d'Alexandre, après les périodes classiques, semble-t-il, qu'on a vu se multiplier des types physiques hors normes, oui. Des mendiants, des vieilles ivrognettes, des esclaves, des bossus, des pygmées, ce qui veut dire les gens tout petits.
Absolument, oui. Une sorte d'inventaire de ce qu'on a appelé plus tard les monstres.
Et il y a certains détails dans les fresques de Pompéi et d'Herculanum qui sont déjà des ancêtres de nos caricatures, non ?
Qui sont là peut-être probablement davantage des représentations obscènes, explicitement obscènes, dans des lieux qui eux-mêmes étaient souvent destinés au commerce des corps et qui n'avaient pas vocation à devenir publics. Toujours cette distinction dont je parlais à l'instant entre ce qui peut être vu du plus grand nombre et ce qui demeurera dans une sphère privée, voire même dans une forme de clandestinité. À mon sens, c'est vraiment une distinction importante.
Les graffitis aussi, des sortes de...
Oui, mais les graffitis ne seront vus que de leur auteur et d'un petit nombre auquel ils seront montrés, voire même dans certains cas ne seront vus que de leur auteur, puisqu'on sait que, y compris dans des chantiers, dans les cathédrales ou dans des palais à la Renaissance, on retrouve aujourd'hui, en enlevant des crépis, en dérestaurant, on retrouve quelquefois des petits portraits charges, mais il est évident qu'ils étaient condamnés à la clandestinité.
Et il manque par conséquent cette donnée que vous considérez comme essentielle quand on parle de caricature, c'est-à-dire une large diffusion.
Oui, la caricature, vous l'avez dit vous-même en commençant, c'est un langage universel. Et on voit bien aujourd'hui à quel point d'ailleurs il est universel jusqu'au malentendu, si j'ose dire. Donc il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle en passe par des moyens de diffusion qui soient à destination du plus grand nombre.
Au Moyen-Âge, il semble que prolifère une quantité d'images ayant un caractère grotesque au point que Bernard de Clairvaux doit les condamner, les pourfendre en 1124 en l'écrivant « Que signifie dans vos cloîtres, les cloîtres, oui. Là où les religieux font leur lecture, ces monstres ridicules, ces horribles beautés et ces belles horreurs ?» On appellerait ça un oxymore de notre temps. À quoi bon, dit Bernard de Clairvaux, dans ces endroits, ces singes immondes, ces lions féroces, ces centaures chimériques, ces monstres demi-hommes, ces tigres bariolés? On y voit une seule tête pour plusieurs corps, ou un seul corps pour plusieurs têtes. Et on n'a pas de honte de pareille frivolité. On devrait au moins regretter ce qu'elle nous en coûte.
C'est parfaitement logique. Du point de vue qui est celui de Bernard Clairvaux, et ce qui est vrai des cloîtres, est vrai des chapiteaux dans un certain nombre de lieux de culte, est vrai même quelquefois de certains tympans, où dans les représentations des jugements derniers, et en particulier la représentation des damnés, il y a toutes sortes de diableries qui impliquent d'ailleurs quelquefois des princes, ou voire même des ecclésiastiques, qui sont entraînés en enfer par le biais de la sculpture. Et là, on est déjà à certains égards, dans cette condition de publicité, puisque si les cloîtres demeurent évidemment fermés à ceux qui n'ont pas pris les ordres, les chapiteaux des églises, ou à plus forte raison les tympans, ou les fresques, je pense à celle, par exemple, l'enfer de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, là, en effet, on peut penser qu'il y a déjà un message moral et politique, qui sera d'ailleurs repris par la réforme, puisque ce sont bien les puissants, que ces puissants soient ceux du pouvoir profane ou du pouvoir religieux, qui sont précipités dans les flammes de l'enfer pour n'avoir pas respecté les enseignements des Écritures.
La réforme joue un rôle fondamental dans l'histoire de la caricature que nous évoquons ce matin, Philippe Dagen, puisque c'est le temps où l'invention de l'imprimerie permet soudain une formidable extension de la diffusion de ces dessins, et à bon marché aussi.
Je pense qu'il y aurait une histoire à écrire de la conjonction des moyens techniques, donc d'une sorte d'économie de l'image et de leur emprise.
Ce qui nous conduit très directement aux effets d'Internet
tout à fait.
Aujourd'hui.
Mais Internet n'est à cet égard que le prolongement, évidemment, démesurément étendu de ce que l'imprimerie a été dans un premier temps, de ce que les énormes progrès mécaniques et techniques de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, la lithographie, la gravure, bois debout, etc., ont permis ensuite, jusqu'à en arriver arriver à la grande presse de la fin du 19e siècle, qui, là encore, grâce à des améliorations techniques, peut publier à bas prix des pleines pages, donc avec un impact visuel très fort, de dessins satiriques qui, de surcroît, sont en couleur. De ces dessins en couleur de la Lune ou de n'importe quel journal satirique ou de l'Assiette au beurre, de n'importe quel journal satirique de la fin du 19e siècle, à celles qui circulent aujourd'hui sur Internet, c'est évidemment une différence d'échelle, mais quant au lien entre le progrès technique, entre la nouveauté technique et le dessin satirique, le lien était déjà présent.
La Renaissance introduit un élément nouveau, c'est une sorte de bestiaire codifié. Il y a dans les caricatures des rapprochements entre les humains que l'on souhaite pourfendre et des animaux, codifiés d'ailleurs.
Il y a un langage que on connaît, tout le monde connaît les dessins de Lebrun sur la question, où celui ou celle qui est soupçonné de lâcheté verra son profil devenir celui d'un mouton. Celui qui ou celle qui serait cupide ou cruel tournera au rapace. Oui, il y a tout un langage, en effet.
Ce généreux est un loup ou un milan.
Oui. Ceci étant, cette physiognomonie, puisque c'est de cela qu'il s'agit, cette physiognomonie est aussi une sorte d'héraldique des passions, des bonnes ou des mauvaises passions. Et si la Renaissance et le XVIIe siècle les codifient, je serais assez enclin à penser que beaucoup d'éléments sont déjà présents dans le Moyen-Âge. Et ce n'est pas par hasard que j'ai parlé d'héraldique. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui veut que l'animal soit le meilleur symbole des vices et des vertus humaines.
Et il y a des illustrations de Sénèpe, dont nous parlerons tout à l'heure, pour deux ouvrages de l'Action française, de Maurras et de Léon Daudet, consacré à Louis Barthou, qui a été un président du Conseil et un ministre des Affaires étrangères important, notamment dans l'entre-deux-guerres, avant 14 et après 14, et où il le peint en petit chien aboyant dans les bordels. Donc ça dure.
Oui, mais ça, la polémique d'extrême droite de l'entre-deux-guerres, y compris dans ses pires aspects antisémites, a beaucoup donné, c'est le moins que l'on puisse dire dans ce genre-là. Vous faites référence aux caricatures de Sénèpe. On peut penser à certains textes de Charles Maurras, ou de Louis Béraud, ou de Rebattet, je ne sais plus lequel des trois, mais enfin, est-on obligé de choisir, traite Léon Blum de lévrier hébreu. Ce n'est pas non plus très reluisant.
Et Sénèpe, à un autre moment, le peint en chèvre.
Oui, bon, oui. Voilà.
Donc il y a une permanence à cet égard.
Il y a une permanence, il y a aussi une permanence dans l'ignominie. Hein.
Et puis, il y a une tératologie, c'est-à-dire la science
des monstres,
oui. Des monstres qu'on voit apparaître également. Et peut-être ça renvoie aussi à certaines peintures du moment. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec Bosch, par exemple?
C'est plus délicat dans la mesure où là, c'est un rapprochement qui est presque plutôt conceptuel qu'à proprement parler historique. Mais la peinture de proverbes Bosch, Bruegel, a cette dimension de morale et d'allégorie dont on parlait à l'instant. Quand vous peignez le triomphe de la mort, ou quand vous peignez comme l'extraordinaire petit panneau de Jérôme Bosch qui est à Gand, me semble-t-il, qui est un portement de croix où l'on voit le Christ entouré de trognes ignobles, de soldats, d'ivrognes, etc. Oui, évidemment. Mais là, on touche à la question de la frontière qu'il faudrait peut-être, j'aurais envie de dire, liquider.
Parce que bon, au fond, souhaite bien du plaisir. Si vous liquidez la frontière de la caricature et des autres formes de l'art, c'est très difficile.
C'est peut-être difficile, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Ce Christ aux outrages de Jérôme Bosch, c'est un tableau. Bon. Donc il relève des beaux-arts, si on reprend les vieilles terminologies. Mais en même temps, il procède par le grotesque, par l'outrance, par cette tératologie dont vous parliez tout à l'heure. Donc il a des caractéristiques qui sont propres à la caricature. Est-ce que ça sert véritablement la pensée de maintenir une distance, une espèce de frontière entre ce qui serait des beaux-arts et ce qui n'en serait pas? Vous savez, c'est une question que l'on cesse d'affronter. D'expérience, j'aurais tendance à dire que on gagne beaucoup plus à franchir les frontières qu'à essayer de les fortifier, d'autant qu'à terme, elles sont à un moment ou un autre renversées par d'autres qui viennent après. Ce que vous dites de Jérôme Bosch, je le dirais pour revenir plus près de nous, bon, prendre deux exemples très simples. Quand Picasso, en 1937, grave cette suite de petites eaux fortes qui s'appelle « Songes et mensonges du général Franco ». parce que c'est Picasso, c'est de l'art, ou parce que c'est du dessin politique, c'est de la caricature? Bon, on voit bien que la question n'a aucun sens. Quand, un petit peu plus tard, après-guerre, Dubuffet, qui pourtant n'est pas irréprochable quelquefois, fait ses portraits à ressemblance confite, dit-il, de tous les intellectuels, poètes, écrivains de la France de la fin des années 40, c'est de la peinture, donc c'est de l'art. En même temps, ce sont des dessins, je pense à Michaud, à Antonin Artaud, à Dautel, à Jean Paulhan, ce sont des portraits charges extrêmement violents. Alors, c'est de l'art ou c'est de la caricature? Bon, encore une fois, la distinction n'a pas de sens.
La question de la diffusion reste tout de même très importante. Je pense en particulier au fait que le Bernin, dans le cours de ses travaux, dont nous savons l'importance, notamment du point de vue architectural, ne manquait pas constamment d'écrire des petits portraits. C'est un voyageur, de dessiner des figures caricaturales. C'est un voyageur qui a écrit le journal de voyage du cavalier Bernin en France, qui nous le dit, et il observe à propos de ses portraits charges, je disais que c'est une formule qui est antérieure à l'expression de caricature, c'est un portrait qui ressemble en quelque façon, mais dont les traits sont trop marqués et plus grands ou plus petits qu'ils ne sont vraiment, ce qu'on fait pour rendre la personne ridicule.
C'est une description assez simple et complète.
Chanteloup et Dajat, même combat.
Des procédés graphiques.
La période du XVIIe siècle, puisque nous y venons, est importante. On voit qu'en France en particulier, on continue de préserver la personne du roi, ce qui ne sera pas le cas, bien sûr, à la fin du XVIIIe.
Et ce qui ne sera pas le cas au même moment en Grande-Bretagne. Enfin, il est vrai qu'en Grande-Bretagne, on décapite les rois avant que l'on ait eu l'idée de le faire en France. Donc il est assez normal que l'on prenne davantage de liberté.
La Grande-Bretagne nous a beaucoup influencés.
Oui, absolument. Le XVIIe siècle est un siècle important parce qu'un espace de critique s'ouvre de plus en plus largement. Peut-être néanmoins s'ouvre-t-il d'abord du côté des lettres, je pense évidemment des écrivains, je pense évidemment à La Bruyère en disant cela, et à Molière, que Baudelaire comparera si fréquemment à Daumier plus tard, pour dire que la caricature ne me semble pas pouvoir non plus être séparée de la littérature. Il y a une satire dessinée comme il y a une satire théâtrale et une satire versifiée. Ce sont des formes d'expression qui vont ensemble.
La période de la Révolution, à quoi il faut venir, est un moment au contraire d'efflorescence, de profusion, de débauche, de caricatures des deux côtés de la Manche en particulier. Nous avions réédité au moment du bicentenaire, notamment avec l'aide d'Antoine Debecq, de deux volumes sur la caricature révolutionnaire et contre-révolutionnaire. On est très frappé par cette incroyable richesse et cette violence, et parfois cette vulgarité jusqu'à la scatologie de tout ce qu'on peut lire.
C'est une violence, c'est en effet une scatologie qui est assez largement partagée. Je veux dire qu'on en trouve autant du côté des contre-révolutionnaires que du côté des révolutionnaires. Bon, il est évident qu'une période de trouble, pour rester dans la litote, comme la Révolution française, ne peut qu'exciter et créer les occasions de ce genre, la multiplication des feuilles volantes, des placards, des pamphlets, des dénonciations, de part et d'autre. Parce que la presse de l'immigration, que ce soit côté pays germanique ou que ce soit Royaume-Uni, est extrêmement active également. Probablement d'ailleurs, le plus grand caricaturiste de l'époque est-il plutôt du côté de la contre-révolution que de la révolution? C'est évidemment le Britannique Gillray qui est devenu, à la fois par ses dessins contre les révolutionnaires français, puis ensuite évidemment ses charges très régulières contre Napoléon, contre l'Empire, la grande figure du dessin satirique de l'époque, en tirant parti, toujours la même histoire, des évolutions et des améliorations techniques auxquelles il a d'ailleurs lui-même contribué.
C'est-à-dire, d'une part, la gravure sur bois et d'autre part l'invention de la lithographie.
Absolument.
Qui date de 1796.
On est en pleine période d'émulation technique.
Saluons Alois Senefelder, je ne sais pas comment on prononce.
Je suppose Senefelder.
Oui, qui a inventé la lithographie, c'est fondamental.
Un point seulement sur Gillray qui me paraît assez représentatif. Il est associé à une dame à laquelle il était très intimement lié, qui était à la fois son imprimeuse, son éditrice, sa compagne, sa marchande.
C'est un rêve.
C'est un rêve, absolument. Elle avait inventé quelque chose de fort astucieux, qui était la vitrine. C'est-à-dire que on faisait la queue, enfin les Londoniens faisaient la queue devant les vitrines de cette boutique pour voir les nouvelles caricatures de Gilray et les acheter. Ce qui prouve bien, là si vous voulez, pour faire une espèce de court-circuit, ça fonctionne comme les guignols de l'info. On allait voir les nouveaux Gilray comme on pourrait avoir eu envie, en tout cas à une certaine époque, de voir les nouvelles marionnettes des guignols de l'info, avec la même idée que de nouveaux personnages vont apparaître dans de nouvelles formes comiques et que donc l'histoire va ainsi se renouveler en permanence.
Nouvelle forme comique, cela nous conduit à une autre période qui en France a été une période très importante pour l'histoire de la caricature. Je pense aux premières années de la monarchie de Juillet avant que le couvercle retombe sur l'invention des caricaturistes. Et pour évoquer cette période, rien de mieux que d'évoquer la poire, puisque vous savez que Philippon, le fameux caricaturiste, l'ami Daumier, avait dessiné le roi Louis-Philippe en poire, ce qui a évidemment fait la joie des auteurs de chansons. Le Père Lapoire, 1836, qui est ici interprété par Paul Barré, l'auteur en est inconnu.
Le Père Lapoire, ce grand citoyen, dit qu'il ne veut que notre bien. Il l'aura, la chose est notoire, par la poudre ou le réquisitoire. Ah, 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 oui, vraiment, le Père Lapoire est un bon enfant. Oui, nous avons un fier ami dans le meunier de Jemap ou de Valmy. C'est lui qui a moulu cette belle gloire dont parle toujours le Père Lapoire. Ah, 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 oui, vraiment, le Père Lapoire est un bon enfant. Le Père Lapoire se dit libéral, c'est une farce de carnaval. À Saint-Méry, pour le faire croire, soulte au peuple, donne pour boire. Ah, 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 oui, vraiment, Père Lapoire est un bon enfant. Je crois qu'il faudra que la poire et consorts finissent par entrer dehors. Au peuple, on peut en faire à croire, mais ça se termine par un déboire. Pour vivre en France vraiment, Père Lapoire est trop bon enfant.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
La poire, c'est devenu vraiment le symbole à la fois de Louis-Philippe et aussi de la capacité formidable d'un certain nombre de caricaturistes à figer une période de façon symbolique.
Je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît plus les traits de Louis-Philippe que sous la forme de ce fruit. La caricature a tellement bien fonctionné qu'elle s'est collée comme une sorte de masque sur le visage du roi et ils ne font plus qu'un. Ce qui est quand même, pour Philippon, le triomphe suprême. Il a réussi à substituer son propre dessin dans la mémoire collective aux traits que les médailles, les portraits officiels, les pièces de monnaie, etc., diffusaient partout. C'est la caricature à l'état maximal.
La caricature, c'est le nom d'ailleurs du journal fondé par Philippon, qui était fondé en 1830 et qui ensuite a souffert très directement de la censure, notamment après les premiers attentats contre le roi, la cour ayant pu expliquer, le ministère ayant pu expliquer que c'était un des motifs de l'agressivité des assassins potentiels, que ces caricatures largement diffusées. On voit aussi Louis-Philippe en maçon qui efface sur un mur les promesses de 1830.
Ça, c'est une caricature qui pourrait resservir souvent.
C'est ce qu'on appelle une concordance des temps, c'est ça?
Si vous voulez.
L'artiste majeur, je crois qu'on peut le dire, c'est évidemment à l'époque Honoré Daumier, qui incarne une sorte d'âge classique de la caricature. Le Michel-Ange de la caricature, a dit Michelet.
Oui, Daumier, c'est l'homme qui est capable de s'emparer d'à peu près tous les sujets, de les retourner jusqu'à en faire apparaître tantôt les outrances, tantôt les sous-entendus, tantôt... Ce que je veux dire par là, c'est que vous considériez Daumier, le Daumier qui pastiche l'Iliade et l'Odyssée, ou celui qui tient la chronique des salons de peinture, ou celui qui tient la chronique des mœurs de son temps, les grisettes, les bourgeois, ou celui de l'actualité politique, il est aussi juste dans tous les cas.
Vous rappelez ce dessin de la chambre, le ventre législatif, avec comme sous-titre oui. Aspect des bancs ministériels de la chambre en 1834.
Oui, je pensais aussi à des dessins comme celui qui est très connu de la rue Transnonain, qui est une dénonciation des violences de la répression.
En 1934, laissez-moi citer Baudelaire alors. Dans une chambre pauvre et triste, la chambre traditionnelle du prolétaire, aux meubles banals et indispensables, le corps d'un ouvrier, en chemise et en bonnet de coton, gît sur le dos tout au long, les jambes et les bras écartés, et il y a eu sans doute dans la chambre une grande lutte et un grand tapage, car les chaises sont renversées, ainsi que la table de nuit et le pot de chambre. Sous le poids de son cadavre, le père écrase de son dos le cadavre de son petit enfant. Dans cette mansarde froide, il n'y a que le silence et la mort.
Et cette idée de la mort dans la chambre, c'est l'idée de Guernica, un siècle plus tard. De faire d'une tragédie une image aussi concentrée, et j'allais dire aussi quotidienne que possible, afin sans doute aussi que ceux qui la regardent puissent d'autant plus facilement la transposer dans leur propre vie. Que le chemin entre l'actualité universelle et l'actualité personnelle soit aussi court que possible. Parce qu'au fond, n'importe quel ouvrier, ou pas seulement d'ailleurs, contemporain de Daumier, peut facilement supposer que la même chose aurait pu lui arriver, et donc ressent l'outrage. Et je pense que quand Picasso prend le parti de ne représenter là aussi qu'une scène presque, j'allais dire presque familière, une femme, un enfant, idée qu'il a reprise d'ailleurs quand il peint le charnier en 1945 pour dénoncer les camps, plus la formule est simple, plus elle est immédiatement en prise avec le quotidien, plus elle est efficace.
Oui, il est toujours intéressant de se demander quel type de dessin, à un moment donné, s'est imposé comme... comme incarnant le moment d'une sensibilité collective. Je pense par exemple au dessin de Jean Eiffel, où on voit la tour Eiffel et De Gaulle face à face, au moment de la libération de Paris, et la tour Eiffel dit à De Gaulle « mon grand ». Le dessin de Faisan, simplement au moment de la mort de De Gaulle, on voit Marianne en pleurs sur le chêne qui est à terre. Et dans d'un autre côté, le dessin de Thiem, lorsque De Gaulle, dans une conférence de presse en 1967, avait parlé à propos des Juifs, du peuple d'élite sûr de lui et dominateur, qui montre prisonnier d'un camp de concentration en pyjama, pris dans des fils de fer barbelés. Ce sont des souvenirs qui surgissent aussitôt à la mémoire.
Peut-être rajouter le bal tragique à Colombet également.
C'est plus une formule qu'un dessin.
C'est une formule, mais je pense qu'elle s'est aussi inscrite assez longuement dans l'histoire de la politique française. Et elle a d'ailleurs été, pour des raisons que tout le monde connaît, récemment rappelée.
Harakiri, novembre 1970, c'est juste après la mort du général de Gaulle.
De Gaulle, et cela, au lieu d'aller dans le sens du grand deuil collectif que sont les dessins que vous avez cités, prend le contre-pied dans un registre beaucoup plus burlesque.
Alors nous en arrivons à la Troisième République et aux dessinateurs qui prennent une grande importance, d'autant plus que la loi de 1881 est tout à fait libérale, plus libérale que... aucune législation dans les pays voisins à ce moment-là. Laisse une grande liberté aux dessinateurs. Sénèpe en parle. Sénèpe, c'est un dessinateur qui a fleuri, comme on dit, à partir des années 1920 et dont la carrière a duré jusque dans les années 70. Il est ici interrogé par Jacques Chancel dans Radioscopie sur France Inter le 6 octobre 1971.
De toute manière, il faut avoir été caricaturé par Sénèpe pour être bien installé dans l'actualité.
Non, c'est-à-dire que la caricature contribue à faire connaître un peu le visage des gens et par la suite à intéresser le public aux personnages. C'est une bonne publicité. Et il m'est arrivé assez souvent autrefois, quand je fréquentais plus assidûment le Palais Bourbon, il m'est arrivé souvent que des députés et des adversaires politiques, enfin si on peut dire, venaient me tirer par la manche et me disaient « Écoutez-moi, vous ne me faites pas, faites-moi donc, engueulez-moi au besoin, ça n'a aucune importance, mais faites-le-moi. » Et faites-moi ma tête dans le journal. Et alors, je le faisais, et je pense que dans leur patelin, ou dans leur circonscription, pour mieux dire, eh bien, ça leur servait. Ils pouvaient dire à leurs électeurs, « Voyez, à Paris, on me connaît, enfin, je suis quelqu'un. » Je me souviens, il m'est permis de le rappeler. Un jour, Aristide Briand, que je taquinais fort dans mes dessins sur sa politique, un jour, à la Tribune, il dit, c'était à propos d'un grand déjeuner diplomatique qu'il avait eu avec les Allemands, et alors je l'avais fait restant en carafe sur la table. Alors il avait bien voulu dire, c'est très drôle, mais enfin, il ne faudrait pas, c'est mauvais, ça fait du tort.
Vous alliez souvent au Palais Bourbon, maintenant, c'est fini.
Non, maintenant, j'y vais moins, n'est-ce pas?
C'est moins drôle.
J'y vais quelques fois, parce que c'est moins rigolo. Autrefois, on flanquait un ministère en l'air tous les 8 jours. Alors, ça mettait de l'animation. Professionnellement, je préférais ça. Mais enfin, je ne veux pas dire que ça ne soit pas mieux maintenant de garder un ministère longtemps. Seulement, pour le dessinateur politique, c'est évidemment moins rigolo.
Est-ce que dans votre métier, il fallait avoir une propre orientation politique? Vous avez été très marqué, vous. Je devrais dire même que vous avez été très marqué à droite.
Mais non, pas tellement. La preuve, je vous dis que M. Jacques Duclos, j'étais très bien avec lui. Je suis
mais content. Ça n'empêche rien.
Non, non, bien sûr.
Il y a eu quand même les...
Non, j'aime bien l'ordre, voilà. Vous comprenez? Alors c'est tout.
Vous aimez les marches militaires?
J'aime les marches militaires, je n'aime pas la pagaille, je n'aime pas les embouteillages dans la rue, et voilà.
Alors vous estimez donc qu'aujourd'hui, rien ne va?
Ah non, enfin, il y a des accidents.
Sénep a été, Philippe Dagen, le représentant d'une époque de la caricature qui est un dessin simplifié, comme Gassier d'ailleurs, son maître, qui lui était à gauche. Moins partisan de l'ordre.
Oui, moins partisan de l'ordre. Oui, Sénep est une... Certains de ses dessins sont intimement associés aux luttes politiques en France dans la fin de la Troisième République. Étant donné l'extrait que l'on vient d'entendre, il faut quand même probablement préciser que quoi que donne à penser la question que pose Jacques Chancel sur les orientations politiques de Sénep, il n'a pas été collaborateur à tous les sens du terme, précisément, de la presse collaborationniste.
Non, il a cessé voilà. De faire du dessin
politique. Juste pour éviter une confusion qui serait préjudiciable, Sénep n'est pas un dessinateur collabo.
Remontons avant lui, à propos de droite et de gauche, à la Commune, parce que c'est un moment aussi fondamental, n'est-ce pas, dans l'histoire de cette caricature que nous évoquons aujourd'hui.
Je pense que c'est les plus belles années de la caricature, c'est de la Commune à la Première Guerre mondiale. C'est le moment de cette explosion formidable qu'en effet la libéralisation des lois sur la presse permet en France, et où apparaissent des figures aussi... on a parlé de Daumier, mais je pense que André Gilles est une figure, ne serait-ce que par son obstination à faire paraître et reparaître des journaux qui, quelquefois, avaient des espérances de vie assez brèves, est une figure assez formidable. L'éclipse, la lune, il y a des choses extrêmement drôles.
La lune est avant l'éclipse. Quand
la lune doit cesser de paraître, Gilles sort l'éclipse, ce qui est quand même une idée relativement formidable. Et puis, évidemment, cette explosion que tous les historiens de l'art aiment particulièrement parce qu'ils y retrouvent beaucoup de grands artistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui est l'assiette au beurre.
Gilles, restons-y un instant, il invente aussi les personnages avec des têtes d'animaux ou de fleurs également. Et puis il est poète aussi, il y a un très joli recueil que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Muse à Bibi, qui est signé par André Gilles, où il évoque en particulier de façon nostalgique le Luxembourg au temps de la Commune.
On doit à André Gilles, ce que sans doute on a beaucoup oublié, le surnom de la censure. Si on dit couramment, pour ne pas répéter le mot Anastasie, plutôt que la censure, c'est parce que Gilles a inventé ce personnage d'une vieille fille revêche armée de ciseaux et de lorgnons pour caricaturer la censure politique. Donc, c'est en effet quelqu'un qui, jusque dans le vocabulaire, a laissé une trace assez profonde.
Oui, je renvoie à un dessin de la Lune rousse du 27 janvier 1878 que j'emprunte à un recueil improvisé par les éditions de Nouveau Monde, par Yannick Dehé, qui s'appelle « La caricature, et si c'était sérieux ?» Un livre qui a paru très très vite après les événements de janvier. On voit André Gilles dessinant cette vieille fille que vous évoquez avec des immenses ciseaux et un chat effrayé à ses côtés. Pauvre Anastasie, tu seras toujours la même. Oui. La Lune rousse, 27 janvier 1878.
Ce sont des dessins, ce sont des hommes comme cela qui ont dégagé l'espace de liberté pour que le débat public ait lieu.
Alors l'affaire Dreyfus est un moment essentiel énormément d'inventivité et d'une étonnante violence.
Plus de violence de la part des anti-Dreyfusards que de la part des Dreyfusards, sans doute parce qu'il est toujours au fond plus facile de dessiner contre.
Forain, Carandache. Grand talent.
Il n'en demeure pas moins que devant certains, y compris certains dessins de Forain, quelle que soit l'œuvre de peintre de Forain, on est aujourd'hui extrêmement mal à l'aise.
On a le haut le cœur quand on voit Zola sortir des latrines.
Oui, c'est tout de même aux origines du dessin antisémite qui a fleuri jusqu'à la période de Vichy. Donc on ne peut pas non plus totalement, quel que soit le savoir-faire du dessinateur, des journaux comme le Psit, par exemple, de Carandache, qui avait été fondé pour mener les campagnes anti-Dreyfusards. Alors, de l'autre côté, c'est un petit peu facile, parce que ce n'est pas si simple non plus. Il y a la presse anarchisante et il y a l'assiette au beurre. Alors là, on se régale.
Alors l'assiette au beurre, c'est passionnant parce que évidemment, on est amené à rapprocher cette publication qui a duré quelques années, de 1901 à 1912.
Oui.
Avec de très grands artistes, Kupka, Valoton, Jean Gris, Van Dangen, Jossot et Grandjean, qui étaient des anarchistes. C'est Grandjean qui a ce fameux dessin où on voit des curés accompagnés chacun d'entre eux par une noix à propos du blasphème et de sa liberté. On voit à quel point on est allé loin dans ces moments-là.
Dans l'assiette au beurre, on frappe très fort, mais on frappe très fort dans toutes les directions. Contre les clergés, évidemment, et le fameux numéro spécial de Kupka contre les religions où il les maltraite toutes. Monothéisme, polythéisme, religion révélée ou pas, il les passe à la même moulinette, et c'est extrêmement réjouissant. Mais caricature sociale, la misère, les grèves, caricature, on l'oublie quelquefois, caricature anticoloniale. Si l'on cherche dans la presse française un lieu où, dans les années 1900, l'exploitation des indigènes, l'oppression, quelquefois les expéditions punitives sont violemment dénoncées, c'est dans l'assiette au beurre. Il me semble qu'il est de Jossot, le dessin où l'on voit un soldat des troupes coloniales avec un fusil et une baïonnette, deux enfants embroché sur la baïonnette, et le sous-off qui lui dit « d'un coup, t'auras la croix ». Sans commentaire.
Il faut rappeler à propos de l'attaque contre les religions qu'on en avait débattu au moment de la loi 1881 et que l'ensemble des parlementaires républicains désormais en majorité avaient refusé l'idée de s'en prendre au blasphème et avaient insisté sur l'autorisation, y compris pour le dessin, dont on a apprécié dès ce moment-là la force satirique et subversive considérable, le droit à s'en prendre aux religions.
Mais quand on regarde le fameux numéro de Kupka, on peut se demander si aujourd'hui, certains des dessins qui le constituent pourraient être publiés sans qu'il n'y ait de manifestation, voire même que dans certains pays, certains de ces dessins soient interdits. Alors qu'ils ont été diffusés, alors je ne dirais pas qu'ils ont suscité une approbation générale, mais ils ont été diffusés. Et quand, puisque vous avez fait référence au papier du Monde, quand on a décidé d'illustrer à la une du supplément Culture Idée par un dessin de Kupka qui était une caricature de la religion musulmane, nous savions parfaitement ce que nous faisions.
Il y a un dessin tout à fait impressionnant sur l'homme nouveau qui est en train de triompher du Christ écrasé sous le poids de sa croix.
Il y a aussi des dessins contre les liens très forts entre l'Église et les États. Toujours la concordance des temps. Le lien entre le clergé orthodoxe et le pouvoir tsariste, j'ai cru comprendre que c'était une alliance qui avait été récemment renouvelée en Russie.
La guerre de 14 est une période où on continue à voir fleurir les caricatures, mais ce sont des caricatures qui sont essentiellement dirigées contre l'ennemi. Et du coup, il y a une autre donnée qui apparaît plus clairement, ce sont les stéréotypes nationaux.
Ça existait déjà auparavant, mais le Prussien gros, gras, moustachu et à casque à pointe est quand même un stéréotype qui ne date pas de la guerre. De même d'ailleurs que l'Anglais maigre, phlegmatique et osseux. Enfin, on pourrait multiplier les stéréotypes nationaux.
L'ours russe. Oh, il y a un numéro de l'assiette au beurre contre les Anglais où on voit les Anglaises toutes plates en train de photographier avec un Kodak attaquent les malheureux mendiants du côté des Indes.
Oui, mais il est vrai que pendant la Première Guerre mondiale, les circonstances, si j'ose dire, s'y prêtent, on ne fait pas dans la nuance. La caricature allemande étant au moins aussi insultante et triviale que la caricature française. Chacun ayant à reprocher à l'autre des crimes réels ou fictifs, d'ailleurs. Et là, on est véritablement dans des logiques de culture de guerre. Ce sont rarement, d'ailleurs, des périodes où, me semble-t-il, les dessins les plus brillants voient le jour. On est sur des formes tellement simplistes que, véritablement, il y a peu à espérer.
La période de la Seconde Guerre mondiale constitue une coupure très importante, en particulier du point de vue de l'histoire du racisme. J'observe que le dessinateur, le très très bon dessinateur Viaz, interrogé par Témoignage chrétien en 2006, disait au Nouvel Observateur, c'est là qu'il dessine, au Nouvel Observateur, il est très difficile d'aborder tout ce qui touche aux religions et ce qui touche à Israël en particulier.
Je comprends très bien cela. Et il y a un tel passif. Alors là, vous parliez des stéréotypes nationaux, mais il faut bien dire que les stéréotypes raciaux, tels qu'ils ont pu être mise en évidence, popularisée par les propagandes antisémites à la période de la guerre, sont écrasants.
Il y a un avant et un après, et avant et après cette période qui s'incarne dans ce reportage de 1942 qu'on reproduit souvent, mais à l'égard duquel le dégoût ne faiblit jamais. Il s'agit de l'exposition « Le Juif et la France » à Paris.
J'entre dans le hall. Il y a quelque chose d'extrêmement saisissant dès l'arrivée, d'extrêmement visuel, et je dois dire que c'est l'impression d'ensemble que nous éprouvons en visitant cette exposition. C'est le but que doit atteindre toute exposition, c'est de frapper par l'image, de frapper d'une façon directe. Mon cher ami, qu'est-ce que cette grande statue de plâtre que je vois au fond ?
Eh bien, cette statue de plâtre a pour but d'abord de montrer les caractéristiques aryennes.
Cette femme avec un enfant, c'est l'arienne, n'est-ce pas ?
Oui, c'est l'arienne.
La mère.
La mère avec son enfant. Et puis au-dessous, voyez-vous, on voit le juif dominant le monde et essayant de dominer l'arien.
C'est ça, ce juif qui est à ses pieds, avec le nez et la barbiche, en serrant dans ses mains un globe qui est sans doute le globe humain, le globe terrestre.
Oui, tout simplement.
Parfait.
Philippe Dagen.
Le journaliste dit parfait, je crois, à la fin du reportage. En effet, ça dit tout ce que l'on peut dire sur cette période. À propos de ces traits, de l'ignoble exposition du Palais Berlitz, à Paris donc, en effet, en 1942, ça me fait penser aussi à l'exposition de 37 et 38 en Allemagne, de l'art dégénéré. Il faut quand même se souvenir que l'œuvre qui était reproduite sur l'espèce de petit opuscule en noir et blanc qui était diffusée aux visiteurs, c'était la photographie d'une sculpture, culture très expressionniste, réalisée par Otto Freundlich, qui était un artiste des avant-gardes dès les années 10. Et Otto Freundlich, qui était juif, s'est réfugié en France, a été dénoncé et mort dans un camp.
Sur cette acmé du racisme et de l'antisémitisme à l'époque de Vichy, un dernier mot, une dernière évocation, je pense à ce dessin terrifiant de Ralph Soupeau, qui dessinait pour « Je suis partout ». Avec un très très grand talent, où on voit la mort avec sa faux accueillir Georges Mandel, qui vient d'être assassiné par la milice. Georges Mandel, le collaborateur de Clémenceau, qui est représenté en corbeau. Et la mort lui dit « Alors mon petit, on est enfin venu voir sa grande amie ».
Oui, vous savez ce que ça m'évoque, malheureusement, c'est que j'aimerais être sûr que des dessins de ce type-là, il ne s'en fait pas et qu'il ne s'en diffuse pas aujourd'hui dans la presse d'un certain nombre de pays.
La période qui suit, c'est-à-dire la période d'après la Libération, est marquée, me semble-t-il, par une évolution du métier de caricaturiste vers une situation un peu de journaliste. Le journaliste dessinateur est un type qui apparaît, qui se définit à ce moment-là.
Les déclarations de Cabu qu'on a entendues en début d'émission sont de ce point de vue-là très représentatives. Il parle de prolonger l'événement par le dessin. Prolonger l'événement, ce n'est pas la même chose que le concentrer dans une figure symbolique ou dans un monstre. On est davantage dans un commentaire. J'imagine que cela s'explique aussi par le fait que désormais, à partir des années 60 ou 70, le spectateur du dessin est en permanence informé. et que donc on peut entretenir avec lui une conversation quotidienne, tout simplement parce que ce sont les mêmes radios, ce sont les mêmes télévisions, ce sont les mêmes journaux qui donnent l'information à la totalité des lecteurs. Et donc finalement la réactivité peut être plus rapide et la complicité plus grande, dans la mesure où les moyens de diffusion de l'information sont de plus en plus généraux et de plus en plus rapides. Donc on a moins besoin de s'arrêter à un événement phare, puisque finalement, au jour le jour, chacun sait de quoi il est question.
D'ailleurs, très souvent, on voit la conjonction, c'est frappant chez Plantu, par exemple, entre deux aspects de l'actualité qu'il rapproche, ce qui parfois rend, quelques années plus tard, assez difficile la compréhension du trait et du propos.
Absolument. Mais pensez à une chose, c'est que les journaux illustrés dont on a parlé de la période de la Troisième République, par exemple, étaient très souvent des hebdomadaires. Ce qui veut dire qu'il renvoyait à une certaine temporalité de l'actualité. Alors que désormais, on est face à de la caricature quotidienne, voire même, grâce à Internet aujourd'hui, beaucoup plus instantanée encore. Donc le rapport au présent se trouve transformé presque mécaniquement par le simple fait qu'on peut rebondir, dirait-on dans le jargon de la presse, à une heure près, et c'est quand même tout à fait différent d'avoir un délai d'une heure ou d'avoir un délai d'une semaine.
Est-ce qu'on peut dire que les attaques contre les individus sont désormais moindres que les attaques contre une politique qu'ils peuvent incarner. Il s'agit moins de décrédibiliser l'homme en l'abaissant par une dégradation corporelle ou physique, physique notamment, mais de mettre en évidence un aspect de l'actualité.
Oui, enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont pu avoir le sentiment que leur physique fournissait matière à des représentations extrêmement désobligeantes dans un passé très récent, comme dans l'entre-deux-guerres, comme dans des périodes antérieures. Et que cela passe par le dessin, que cela passe par les guignols de l'info ou d'autres formes visuelles. Non, je n'ai pas le sentiment que, y compris... Vraiment, j'allais dire, sans aucune espèce d'implication, de préférence de ma part, je ne pense pas que Nicolas Sarkozy ou François Hollande n'aient pas été maltraités pour leur apparence physique dans un passé récent. C'est-à-dire qu'au fond, là, il y a une certaine continuité dont ils s'accommodent. Alors, peut-être est-ce que Sénèpe, en effet, avait raison. Peut-être vaut-il mieux être caricaturé qu'ignoré. Je ne sais pas.
Les années 1960, avec l'arrivée du gaullisme au pouvoir... Nouvelle arrivée du gaullisme, le début de la Ve République, puis 1968, puis les années 70, donne le sentiment d'une résurgence de la caricature. C'est d'ailleurs là que prend racine Charlie Hebdo avec Harakiri, etc. Écoutez donc cette interview de Georges Wolinski. C'est aussi, vous l'avez bien compris, un hommage que nous lui rendons. Nous commencions par Cabu, nous allons finir par Wolinski, cette émission, dans Radio Libre sur France Culture le 13 novembre 2010. Sur les relations du dessinateur, du caricaturiste avec la politique.
Parce que je me souviens, lorsque j'ai eu le prix de l'humour noir, c'était je crois en 66-67, il y avait Ciné qui était là, qui avait beaucoup aimé le livre, qui était paru chez Pauvert, et il me dit « Et toi, politiquement, tu es quoi ?» Alors, je ne savais absolument pas lui répondre, je ne savais pas. Parce que je ne lisais pas les journaux et sur le plan politique, j'étais nul. Hein.
Alors je lui ai dit, pas de conscience politique.
À tout hasard, je dis, je suis du centre, comme ça me paraissait équilibré. Alors je me suis fait engueuler, il m'a dit, mais vraiment, tu dois réfléchir, tu dois... Et ça m'a... Et finalement, ça m'a fait réfléchir, parce que je me suis intéressé de plus près... à ce qu'on appelle les événements de mai 68, ce qui s'est passé en Allemagne, en Hollande, l'écologie et tout. Et plus ça allait, et puis ce qui se passait aussi en France, à la bibliothèque, je suis devenu gauchiste. Et lorsque Jean Chalitte, qui dirigeait Action, m'a demandé de faire des dessins pour Action, j'ai accepté, mais je n'avais jamais fait de dessin politique.
En 68
En 68. Et quand j'ai acheté Action dans la rue, aux Champs-Élysées où il y avait une manif, et que j'ai regardé mon dessin, je me suis dit, tiens, je sais faire ça. Voilà. J'avais découvert que je savais faire des dessins politiques. Et après, Ciné m'a appelé, il m'a dit, j'ai une idée pour... Parce que Action, c'est pas assez. j'ai une idée pour un journal qui s'appelle L'Enragé. Je dis, oh, c'est formidable comme titre. Et on a fait l'enragé ensemble pendant 13 semaines. Ça a duré 13 semaines parce qu'après, il y avait les vacances quand même.
C'était Georges Wolinski. C'est le temps aussi où il y a un entrelac peut-être original, nouveau, entre la culture populaire en même temps et les mouvements de contestation.
Oui, c'est aussi le moment où l'atelier populaire de l'École des Beaux-Arts, je parle de 68, sort ses affiches, dont la célèbre « La Chienlit, c'est lui », caricature anti-gaulliste. Il y a en effet une recrudescence, comme dans toutes les périodes d'agitation politique.
D'émotion, comme on disait au XVIIIe siècle.
Et où là encore, évidemment, les frontières sautent très rapidement, et on ne demandera pas si on est plutôt du côté de l'art ou plutôt du côté de la satire. Tout est confondu. 68, c'est tout de même, en effet, le moment où Charlie Hebdo, Harakiri, L'Enragé, enfin, prennent leur essor. C'est aussi, pour beaucoup d'artistes, alors qu'il y avait une conscience, on va dire, idéologique, finalement, assez vague, assez floue dans les années 50, on voit réapparaître des formes d'art engagées. Donc, là encore, les limites sont floues, comme on en voit aussi beaucoup aujourd'hui. Parce que ce sont des histoires qui sont absolument parallèles. C'est-à-dire, l'engagement du dessin dans la politique et l'engagement de ce qu'on appellerait très grossièrement l'art contemporain dans la politique, ce sont deux données absolument indissociables et très présentes aujourd'hui. Jeunes générations d'artistes qui ne procèdent pas forcément seulement par le dessin. Ça peut être les vidéos, ça peut être la photo, ça peut être l'installation, sont dans des dimensions de critique sociale et politique extrêmement fortes. Et ça, c'est une chose qui avait à peu près disparu dans les années 50 ou même dans les années 60, avant 68 en France.
Oui, sociale aussi. Oui. Un certain nombre de dessinateurs rendent compte d'une évolution des mœurs. Je pense à Claire Bretéché et son immense talent. Je pense à Reiser, enfin les autres, Tardy, Bosque, noms qu'il faut citer. Et puis, il y a l'idée aussi qu'à hauteur internationale, la caricature peut être éventuellement une arme contre la mort, contre la guerre. Je pense à l'entreprise de Plantu qu'il a organisée en complicité. Cartooning for Peace. Oui. À Sarajevo, pour le 100e anniversaire de l'assassinat du prince héritier, on avait au bord du canal exposé toute une série de dessins de cartoonistes, c'est le mot anglais, de dessinateurs se battant dans des pays d'oppression de la liberté d'expression, se battant pour celle-ci.
Parce qu'une fois de plus, le dessin n'a pas besoin d'une langue, parce que le dessin est une langue universelle que l'on parle à Sarajevo comme à Bamako, comme à Paris ou comme à New York.
Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. C'est une exposition que nous avions organisée ici à Radio France au début des années 1980. Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Ce sera le dernier mot de notre conversation. Philippe Dagen, que je vous remercie d'avoir bien voulu engager avec moi à ce micro. On pourrait citer beaucoup de vos œuvres. Comme romancier, d'abord, vous êtes aussi romancier, je tiens à le dire. Un roman parmi d'autres, très remarqué, paru chez Grasset en 2006, Arthur Cravant n'est pas mort noyé. Rappelez-nous qui est Arthur Cravant.
Arthur Cravant tombe bien, là, il faut l'avouer, parce que comme auteur satirique, c'est un dadaïste, c'est un poète, c'est un boxeur, et c'est l'homme auquel on doit l'un des portraits charges, mais avec des mots, les plus violents, les plus féroces qui aient jamais été écrits, d'André Gide, dans une revue qui s'appelait Maintenant, qu'il vendait dans un petit chariot de vendeur de légumes.
En quelle année ?
Ça, c'est en 1913-1914. Cela mérite, Cravant, pas mon livre, d'être relu aujourd'hui.
Les deux. Vous avez, dans l'ordre de votre activité de critique d'art et de professeur dans ce domaine, de l'art contemporain en particulier, je cite un seul de vos livres, les autres sont évidemment à trouver sur notre site et sur le vôtre, La haine de l'art, paru chez Grasset en 1997. Deux livres parmi d'autres que nous donnerons, et bien sûr, sur le site de Concordance des temps, le livre de Laurent Baridon et Martial Guédron, L'art et l'histoire de la caricature, paru
très
chez
bon
Citadelle et Masno.
Très bon ouvrage.
D'ailleurs, vous le citez en note de votre article qui a été le point de départ de cette conversation, l'article du Monde, dont on trouvera également référence sur le site de Concordance des temps. Et puis le livre excellent d'Annie Duprat, Histoire de France par la caricature, paru chez Larousse en 1999. Bibliographie donc plus complète sur notre site, avec les références et documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, toujours dans la ligne de notre réflexion d'après janvier 2015, je recevrai Grégoire Kaufmann, qui est le biographe d'Édouard Drumont, pour parler des racines de l'antisémitisme français dans les débuts de la Troisième République. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et Nathalie Lempereur aussi, précieux concours, et réalisée par Patrick Molinier, comme chaque samedi, avec à la prise de son Élise Leu, à la discothèque Romain Couturier, et Sandra Escamez pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, je vais passer le relais à Dominique Rousset pour l'économie en question, en lui donnant à méditer cette formule d'Henri Monnier, une légende pour Joseph Prudhomme, ce sont toujours ceux qui auraient le plus besoin d'argent qui en ont le moins.